L'inattendu.
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 L'inattendu. On poursuit notre quête de l'inattendu. 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 L'inattendu.
Bonjour à vous, chers auditeurs, et vous êtes bien dans l'inattendu, votre émission d'actualité locale, étudiante et scientifique. Nous sommes le 31 mai, il est actuellement 17h03, et pour cette toute dernière émission de la saison, nous allons parler des élections européennes du 9 juin prochain. Aujourd'hui, avec mon animation, Victoria, salut.
Salut.
Alors, qu'avons-nous au programme?
Eh bien, au programme de cette dernière chronique sur les listes électorales pour le 9 juin prochain et sur le rôle des députés européens.
Il y aura aussi un micro-trottoir à la rencontre des Rennais et Rennaises à l'approche des élections.
Et dans le cadre des élections du 9 juin prochain, les européennes, plus précisément, nous avons recueilli la parole de 8 listes différentes sur les 38. Nous proposerons à notre invité Benoît Josset, doctorant en sciences politiques à l'Institut du droit public et de la science politique, expert auprès de Team Europe Direct pour la représentation française de l'Union européenne, et en train de réaliser un projet de recherche sur la montée des nationalismes et de l'impact de la montée des nationalismes européens, pour lequel nous reviendrons plus en détail tout à l'heure. Seuls les Républicains n'ont pas souhaité répondre à notre sollicitation, mais place tout d'abord au traditionnel flash info de la rédac présenté aujourd'hui par Jeanne.
On vient de l'apprendre, un projet d'attentat d'inspiration islamiste a été déjoué à Saint-Étienne. Celui-ci aurait été imaginé par un jeune Tchétchène de 18 ans. Il a été interpellé mercredi, le projet visait un match de foot.
Donald Trump reconnu coupable dans l'affaire Stormy Daniels.
Et cela pour 34 chefs d'accusation de falsification de documents comptables. Les documents qui, on le rappelle, sont des preuves de paiement de l'actrice X Stormy Daniels. Ce procès n'est pas le seul auquel le candidat à la présidentielle doit se préparer. Il est poursuivi dans 3 autres dossiers. Le fait d'avoir voulu garder sa place à la Maison-Blanche en motivant l'assaut du Capitole en janvier 2021. Pour avoir aussi contesté sa défaite dans l'État de Géorgie et avoir tenté de l'annuler. Et pour avoir emporté des dossiers clés et strictement confidentiels chez lui. Cependant, même si à l'issue de ce procès au pénal, les peines qui sont encourues par l'ex-président sont appliquées, cela ne l'empêchera pas de continuer à faire campagne, de rester candidat et même d'être élu. La Constitution américaine n'a tout simplement pas prévu ce cas de figure et donc n'a aucune interdiction pour cette situation.
Et la France insoumise porte plainte contre la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Hier, jeudi 29 mai, le député Louis Boyard a déclaré vouloir saisir le tribunal administratif contre la préfecture de Rennes. En effet, le représentant des Insoumis reproche à l'institution de faire barrage à l'événement du parti en campagne. Aujourd'hui devait se tenir place Saint-Germain le Manifestival. Cette initiative organisée par les jeunes Insoumis devait se dérouler en itinérance. La mairie de Rennes maintient avoir proposé au parti d'autres lieux, mais que ces propositions ont toujours été refusées. Les Insoumis, quant à eux, avancent le fait que ces propositions n'étaient pas adaptées aux besoins de l'événement et qu'en retour, ils ont également fait plusieurs propositions, mais que chacune d'entre elles ont été retoquées par la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Le député, quant à lui, dénonce une entrave au déroulé de la campagne de son parti et pointe une intentionnalité de l'institution représentante du gouvernement.
Ce week-end, la flamme olympique passera par Rennes.
Elle partira le matin de Saint-Malo pour arriver à Vitré à 14h30 et devrait arriver à Cesson-Sévigné vers 16h45. Ce départ se fera du stade d'Eau Vive et se poursuivra jusqu'à l'esplanade de Charles de Gaulle à Rennes. Des activités et des animations seront proposées à certains points du parcours. Et ce sera notamment le cas pour l'esplanade Charles de Gaulle, donc cela entre 15h30 et 19h30.
Une résolution de l'Organisation mondiale de la santé pour intervenir en aide aux Palestiniens et Palestiniennes est mise en attente après le vote d'un amendement israélien.
Une coalition des pays arabes ont présenté cette semaine devant l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, un texte visant à organiser une conférence de donateurs pour mettre en place une réponse à la situation sanitaire catastrophique dans les territoires palestiniens. Un amendement israélien stipulant que le Hamas retenait des otages israéliens a été voté. Celui-ci appuie l'idée que le Hamas occupait des hôpitaux gazaouis. Cela en réponse, on l'imagine, à, je cite, « la destruction gratuite d'établissements de santé à Gaza ». Les rassemblements en soutien au peuple palestinien continuent d'avoir lieu en France et dans le monde. Ce soir à Rennes, à 18h30, il aura lieu place de la mairie.
Et les Ateliers du Vent accueillent l'exposition What Shadow.
Et cette exposition fait vivre à l'unisson l'art de la céramique, mais aussi l'univers mystérieux des cartes de tarot, d'archéologie, de rituels anciens et d'autres choses encore. C'est un projet qui a débuté en novembre 2023 et qui est porté par trois artistes, Yasmin Atikson, Estelle Shane et Louise London. Ce travail est le résultat du projet Résidence Croisée, mené avec les îles anglo-normandes. Le vernissage, c'est ce soir à 18h, en présence des trois artistes.
Merci Jeanne pour ce flash. Place à présent à une première chronique d'Angelina, qui va détailler les listes électorales des différents partis. Et cette année, on atteint un record dans le nombre de listes des candidats aux européennes.
Et oui, on compte pas moins de 38 listes candidates, il n'y en a jamais eu autant. Une dernière vient même de se rajouter le 31 mai dernier. Mais alors, comment se repérer au milieu de tous ces candidats et candidates? Comment faire son choix, seul, dans l'isoloir? Quel nom mettre dans l'enveloppe? Comme on est sympa et qu'on veut vous aider, on va vous aider au mieux afin d'essayer de décrypter tout ça. Si on devait ranger toutes ces listes dans des grands groupes, on pourrait en imaginer 7. La gauche radicale, les sociaux-démocrates, les écologistes, les libéraux, les conservateurs, l'extrême droite et les sans étiquette. Mais qu'est-ce qu'on met dans toutes ces cases? Au fait, en bonus, je vais vous préciser quelques lignes du programme des listes les mieux placées dans les sondages. La gauche radicale, elle, pourrait inclure la France insoumise, le parti communiste représenté par Léon de Fontaine, Lutte ouvrière et Natalia Arthaud, le NPA avec Selma Labib, le parti révolutionnaire communiste d'Olivier Trien, le parti des travailleurs représenté par Camille Adou et l'association nationale des communistes avec Charles Aoro. La France insoumise, présentée par Manon Aubry, défend par exemple l'inscription du droit à l'IVG et à la contraception dans la charte européenne des droits fondamentaux. Le parti veut lancer un plan européen d'investissement public contre la pauvreté. Dans la catégorie des sociaux-démocrates, on peut citer le parti socialiste, la nouvelle donne de Pierre Larouturo, Europe Territoire Écologie avec Guillaume Lacroix et le parti des citoyens européens représenté avec Audric Alexandre. Raphaël Glucksmann, qui présente la liste Place Publique et le parti socialiste, souhaite réarmer l'Ukraine et l'Europe et mettre fin au droit de veto des États membres du Conseil de l'Union européenne. Parmi les écologistes, il y aura l'Europe Écologie Les Verts, Écologie au Centre représentée par Jean-Marc Governatori, Écologie Positif et Territoire avec Yann Werling et Equinox représentée par Marine Chollet. Marie Toussaint, candidate d'Europe Écologie Les Verts, défend un traité environnemental européen et la réduction de l'utilisation des pesticides et des engrais de synthèse. Dans la catégorie des libéraux, il y a surtout en partie celui d'Emmanuel Macron, Renaissance. Il est représenté par Valérie Ayer et promeut un fonds européen de soutien aux industries de défense, ainsi que l'augmentation que des budgets de défense et de tous les États membres. Les conservateurs sont représentés par les Républicains, tête de liste François-Xavier Bellamy, qui souhaite en outre apporter un soutien massif à l'Ukraine tout en maîtrisant les frontières extérieures. À l'extrême droite maintenant, on peut citer Reconquête, le Rassemblement National, les Patriotes de Florian Philippot, Forteresse Europe représentée par Pierre-Marie Bonneau, Restez libre de Édouard Hussonnet, France Libre, le parti de Francis Lalanne. Marion Maréchal, candidate de Reconquête, veut interdire toute campagne européenne faisant la promotion de l'idéologie dite woke et aussi réduire de 50% l'enveloppe allouée au Fonds social européen. Du côté du Rassemblement national, représenté par Jordan Bardella, la volonté est de s'opposer à une, je cite, immigration de masse. Le parti prend position contre le pacte vert, la feuille de route environnementale de l'UE ayant pour but d'atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050 et dénonce une, je cite, « écologie punitive ». Enfin, les partis sans étiquette sont un peu difficiles à situer. Il y en a 15 et je ne vais pas tous les citer, mais parmi lesquels on retrouve le parti animaliste représenté par Hélène Touille, l'Alliance rurale de Jean Lassalle ou encore l'Union des démocrates musulmans français représenté par Najid Azergui. Une fois élu au Parlement européen, tous ces partis se retrouvent au sein de 8 groupes. Le groupe du Parti populaire européen, qui est celui avec le plus de chaises et qui équivaut à la droite. Le groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, qui lui plutôt le Parti socialiste. Renew Europe Group, le groupe de la majorité présidentielle française, donc plutôt centre-droit, le groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, vous l'aurez compris dans le titre, c'est les écologies des Verts, le groupe des conservateurs et réformistes européens, donc plus la droite conservatrice, le groupe Identité et Démocratie, ça c'est l'extrême droite, ensuite le groupe de la gauche au Parlement européen, pardon, donc la gauche, et pour finir, les non-inscrits.
Maintenant que les listes électorales n'ont plus de secret pour vous, à vos urnes.
L'inattendu sur Syllabe, 17-18h.
Place à présent à une première pause musicale avec 5 Dumas Spider Z. Vous êtes toujours dans l'inattendu.
D'abord, 5h du mat, je retourne au bar. J'avais zappé que j'étais venu en vélo. Faudrait que je rentre, mais c'est trop tard.
Ah ouais, t'as fait les beaux-arts.
Elle me raconte que des trucs d'un télo. Elle se doute pas encore que je suis juste un blaireau. Pour une nuit à Teco, je suis pas dur en négo. Let's go. Je crois pas qu'il y ait un futur, toi, moi. Aucun de nous ne fera le pas. C'est le principe d'inertie. Tu me dis merci, y'a pas de quoi. Si t'as pas la tête à ça, pas grave, on en restera là. On s'oubliera dans 3 mois. Croix de bois. Des messages dignes du prix Goncourt. Mais on cligne d'un œil pour se dire bonjour. Je sais que c'est pas moi, c'est juste mon tour. Ouais, c'est juste mon tour. Je sors boire un verre, je rentre à 5 du mat. On se roule des pelles dans un bar qui pue la clope. Dis-moi pourquoi ce qui me fait du bien me fait du mal. On pourrait le faire, mais viens, on discute d'abord. Je sors boire un verre, je rentre à 5 du mat. On se roule des pelles dans un bar.
Et c'était 5 du mat de Spider Z.
L'inattendu sur Syllabe, 17-18h.
Et avant le 9 juin, Milad est allée rencontrer des Rennais et Rennaises pour savoir si elles étaient intéressées par ces prochaines élections.
À l'occasion de notre émission spéciale sur les européennes, nous sommes allés sonder la population rennaise dans le secteur de Villejean. Pour ces élections qui se tiennent le 9 juin prochain, certains ne sont pas tout à fait au courant.
Est-ce que vous savez ce qui va se passer le 9 juin prochain ?
Non, du tout.
Non, pas du tout.
Non, du tout.
Non.
Non. Non.
Et puis certains sont plus au courant.
Anaïs ?
Anaïs, est-ce que tu sais ce qui va se passer le 9 juin prochain ?
Oui, c'est les élections européennes, si je ne me trompe pas.
Est-ce que vous savez ce qui va se passer le 9 juin prochain ?
Ah bah bien sûr, les élections européennes, évidemment.
Le 9 juin prochain, vous parlez des élections européennes.
Est-ce que tu sais ce qui va se passer le 9 juin prochain ?
Les élections européennes.
Et puis peut-être qu'il faut aider les premiers, et quand on commence à entrevoir le sujet...
On pensait, j'arrive du métro et puis on regardait pour la flamme olympique. Oui, bien sûr, je sais qu'il y a des élections européennes.
Si je vous dis les européennes.
Oui.
Ah oui, non, mais moi je suis en fait dans la flamme olympique et mon anniversaire, donc le reste existe.
Les élections.
Oui.
Oui, je vois un peu, ouais. Mais j'ai jamais voté pour l'instant, enfin... Peut-être cette année, on verra.
On voit que les JO, justement, viennent un peu entraver toutes ces dates liées aux européennes. Et alors, est-ce que les gens vont aller voter ?
Ouais. Est-ce que vous allez pouvoir voter ? Est-ce que vous allez voter ?
Oui, je vais pouvoir voter et je vais voter comme toujours.
Oui, absolument. Donc, je vais voter en Allemagne. Donc, j'ai déjà fait les démarches pour pouvoir voter à distance. Et je pense que c'est absolument important de voter parce que, bon, comme ma collègue a dit, l'extrême droite... est une menace pour l'Europe.
Est-ce que tu comptes voter, toi, le 9 juin prochain ?
Oui, je compte voter, je me suis inscrite et tout.
Est-ce que vous allez aller voter ?
Bien sûr.
C'est important d'aller voter ?
Absolument.
Est-ce que vous allez aller voter le 9 juin prochain ?
Bien sûr, j'ai toujours voté, ouais.
Ah, je vote, oui, effectivement, je vais voter.
C'est important de voter ?
C'est important, très important.
Alors là, en entendant ça, on se dit que tout va pour le mieux avant ces élections. 100% de votants, pas d'abstention. Mais il y en a aussi qui n'ont pas prévu d'aller voter, avec parfois une perte de confiance envers ce genre d'élection, comme Séverine.
Je m'abstiens jamais, mais là j'en ai marre. On nous prend pour des imbéciles, je ne voterai pas cette année. Je boycotte. Et si tout le monde en faisait autant, bah, peut-être on serait écoutés. Puisque les votes blancs ne sont pas pris en compte. Hein, parce que, voilà. Donc je me dis, si tout le monde s'abstenait, bah, peut-être on changerait le système.
D'autres aussi n'ont pas la possibilité de le faire, comme Tony.
Est-ce que vous pensez aller voter le 9 juin prochain ?
Non. Tout simplement parce que je ne suis pas ressortissant français.
On va terminer avec un dernier PAD, celui d'Anaïs, qui nous rappelle quand même que c'est important d'aller voter.
On a vraiment besoin que tout le monde puisse voter, tout le monde doit voter. C'est important.
Merci Mylad pour ce micro-trottoir. Anthony va à présent nous expliquer le rôle des eurodéputés au sein du Parlement européen.
Eh oui, on parle de l'élection de pas moins de 705 eurodéputés. Et même si ils et elles ne siègent pas très loin de chez nous, le Parlement européen est situé à Strasbourg. Leurs activités peuvent nous paraître un peu obscures. D'abord, qui sont-ils et qui sont-elles, ces plus de 700 eurodéputés ? Ce sont des élus des 27 pays membres de l'Union européenne. Ils et elles représentent plus de 360 millions d'électeurs et d'électrices. On les élit tous les 5 ans. Elles et eux, ensuite, élisent leur président ou présidente, qui reste en poste 2 ans et demi. En ce moment, c'est la Maltaise de centre-droit Roberta Metsola. Ensemble, ils et elles forment le Parlement de l'Union européenne. Vous allez sûrement me demander quelles sont les missions de ce Parlement. Eh bien, son pouvoir est avant tout législatif. Il vote les lois de l'Union européenne en codécision avec une autre institution, le Conseil de l'Union européenne, qui, elle, est située à Bruxelles. En fait, le Conseil de l'Union européenne représente les États membres, alors que le Parlement représente, lui, la population. Le Parlement se prononce également sur l'élargissement de l'Union européenne, comme par exemple lors de l'intégration de la Croatie en 2013. En plus de ce pouvoir législatif, le Parlement européen partage avec le Conseil un pouvoir budgétaire. Il adopte l'ensemble du budget annuel de l'Union européenne. Il a le dernier mot. Le Parlement européen a enfin un pouvoir de contrôle sur l'organe qui détient le pouvoir exécutif au sein de l'Union européenne, la Commission européenne. Par exemple, les eurodéputés doivent approuver la désignation du président ou de la présidente de la Commission européenne. Les eurodéputés peuvent aussi déposer une motion de censure à l'encontre de la Commission ou mettre en place des commissions d'enquête. Le but ? Examiner de possibles infractions ou de mauvaises applications du droit de l'Union européenne. Le Parlement européen a aussi un pouvoir de recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Les eurodéputés peuvent la saisir en cas de violation d'un traité ou pour solliciter son avis sur la comptabilité d'un accord international avec le droit de l'Union européenne. À noter aussi, les eurodéputés élisent le médiateur européen. C'est une instance de médiation entre les citoyens et citoyennes et les institutions de l'Union européenne en cas d'infraction du procédure administratif ou des droits de l'homme. Pour finir, le Parlement européen recueille les pétitions formulées par les citoyens et citoyennes. Donc, si vous avez quelque chose à dire en ce qui concerne la législation européenne, vous savez à qui écrire, votre eurodéputé. Mais le meilleur moyen d'agir, ça reste d'aller voter le 9 juin.
Merci Anthony pour cette chronique. Vous en faites plus maintenant sur le rôle des eurodéputés.
Vous êtes toujours dans l'inattendu.
Et place à présent à une nouvelle pause musicale avec le titre Sol de l'artiste Valucre. Tutto dove sei.
non c'è spazio a casa. Butto il sole al posto mio e non so dove sia. Tutte le volte che butto il sole al posto mio e non so dove sia. Tutte le volte butto il sole e non so più dove sia. Butto il sole tutte le volte. Come sto? Son già tre sole a letto. Un po', tanto è uguale a correre. Dormirò pesante come il miele, intanto il fiore qui da te farà più luce. Butto il sole al posto mio e non so dove sia. Tutte le volte che butto il sole al posto mio e non so dove sia. Tutte le volte
C'était le titre Sol de l'artiste Valucre.
Vous êtes toujours dans
l'inattendu.
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 Et nous accueillons maintenant à présent Benoît Jossé, doctorant en sciences politiques.
Et également expert pour la représentation française de l'Union européenne. Vous étiez d'ailleurs, c'est très intéressant puisque c'est un des sujets un peu de la campagne, la situation à Gaza. Et vous étiez pendant 2 ans en Israël, peut-être raconter un peu cette expérience et les débouchés de cette expérience tout simplement.
Donc c'est dans le cadre de mes recherches, j'ai eu l'opportunité de partir 2 ans en Israël et en Palestine. Donc pour vraiment travailler sur les relations internationales de l'Union européenne hors de ses frontières. Majoritairement, moi, j'y étais jusqu'en 2023, donc avant vraiment le conflit actuel. Et c'était déjà quasiment impossible d'aller à Gaza. Il y avait vraiment des frontières très fermées. Ce qu'on retrouve fait déjà un petit peu avec en Cisjordanie et avec tout ce qui va être occupation, colonie. Et c'était vraiment assez compliqué et ça reste été très compliqué avec des directives prises par le gouvernement israélien pour limiter la circulation des Palestiniens et de manière encore plus marquée à Gaza. Et je ne sais pas si vous voulez que j'étende plus là-dessus ou on retourne sur les européennes.
Mais c'est vrai que oui, voilà, on va basculer sur les européennes, bien évidemment. On vient d'entendre d'ailleurs donc le micro-trottoir tout à l'heure avec donc ces personnes qui ne sont pas forcément au courant du 9 juin et de ces élections. Est-ce que ce que vous avez entendu vous étonne ?
Pas tellement. Tout simplement parce que l'Union européenne, je pense, fait une assez mauvaise communication de son utilité et de l'impact qu'elle peut avoir sur la population. Si on retourne sur le cas de Gaza, il n'y a pas de décision claire de la part de l'Union européenne. Là, il y a eu cette semaine la décision de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, de reconnaître la Palestine comme un État. Mais il n'y a pas de consensus au niveau de l'Union européenne, mais il n'y a pas de consensus sur beaucoup d'autres sujets. La question ukrainienne, par exemple, tout ce qui va arriver, on en parlera prochainement, je pense, dans le débat, mais il n'y a vraiment pas de consensus, forcément, parce que c'est une union, et cette union n'est pas comme aux États-Unis fédérales, avec une tête pensante qui dirige tout, et ce qui rend l'Union européenne assez compliquée à percevoir par le grand public.
Une distinction peut-être à faire, Benoît Jossé, c'est la distinction aussi entre le Parlement et la Commission, puisque la Commission a un pouvoir législatif comparé au Parlement.
Tout à fait. Après, la Commission va aussi porter vraiment les lois et les propositions avec, en lien avec le Conseil de l'Europe, les présidents de l'Union, bah, des pays membres de l'Union européenne ou les représentants le cas échéant. Et ça aussi avec une troisième tête qui va être la présidence tournante de l'Union européenne, qui est aussi quelque chose d'assez compliqué à comprendre avec cette multiplicité finalement d'interlocuteurs qui définissent l'Union européenne. Et entre Charles Michel, Ursula von der Leyen, et ben finalement, qui est qui ? Il y avait quelques années, il y a eu un problème, il y a eu un incident diplomatique en Turquie où il y avait le président Recep Erdogan qui avait accueilli Charles Michel et Ursula von der Leyen, et il y avait un problème de positionnement et d'ordre qui faisait qu'Ursula von der Leyen était assise beaucoup plus loin pour la photo officielle. Ça faisait un décalage, et ça se revoit sur des photos officielles, mais ça peut se voir après dans l'opinion publique avec un détachement.
Ce qui est intéressant par rapport à cette présidence, et vous réalisez un travail de recherche sur la montée des nationalismes, c'est que cette présidence, elle est donc tournante, et que la Hongrie se verrait bien à la présidence. Et Viktor Orban notamment, qui a annoncé que s'il était élu eurodéputé, il quitterait sa fonction de Premier ministre hongrois et il pourrait rejoindre éventuellement la présidence.
Alors, la présidence tournante de l'Union européenne, c'est quelque chose qui a été défini dans les différents traités précédents. Mais tous les pays de l'Union européenne vont être présidents pendant 6 mois. Et ça, c'est défini jusqu'en 2030. Il y a un calendrier qu'on peut trouver sur Internet. Actuellement, c'est la Belgique. En 2022, il y a eu la France pendant 6 mois. Et donc là, jusqu'au 31 juin, c'est la Belgique. Et puis au 1er juillet, ça sera obligatoirement la Hongrie qui va arriver. C'est assez compliqué parce que la Hongrie est un pays fortement nationaliste, avec des positions très fortes, des atteintes aux droits de l'homme. Un impact très fort, puisque l'Union européenne aussi pénalise la Hongrie en ne donnant pas des subventions à hauteur de, je crois, entre 20 et 30 millions d'euros qui sont gelés actuellement, ce qui est très très conséquent. Et la Hongrie va donc se retrouver, de fait, à s'occuper de la présidence. Cette présidence, ça veut dire organiser un agenda, donc proposer les questions qui vont être abordées par l'Union européenne. Ça veut dire, par exemple, les questions sur l'adhésion, sur de nouveaux pays, sur l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, qui sont actuellement candidats à l'Union européenne. Donc ça peut faire avancer plus rapidement ou ralentir les choses. Mais ça peut aussi, quand on parlait précédemment du droit à l'avortement, c'est, je pense, sans risquer grand-chose, dire que ce n'est pas un sujet que la présidence de la Hongrie va mettre en avant dans les 6 premiers mois, peu importe le résultat des élections. Puisque c'est eux qui vont mettre finalement ces questions à l'ordre du jour.
Alors vous avez évoqué le sujet de l'Ukraine. Il faut savoir que nous avons interrogé 8 listes différentes. Et c'était une des questions que nous avons posées aux différents candidats par rapport au soutien à l'Ukraine. Je vous propose qu'on écoute ces 7 candidats, puisque le parti des Républicains n'a pas voulu répondre à nos questions. On écoute ça tout de suite, donc l'aide à l'Ukraine. Teddy, du parti pirate, cadre territorial et ancien étudiant de Rennes 2.
Au niveau de l'Ukraine, il faut l'aider bien évidemment. Nous nous sommes engagés en signant la charte Stand with Ukraine à pousser pour fournir tout le matériel nécessaire tel que l'artillerie, l'aviation, les missiles de moyenne et longue portée ainsi que les munitions. Cette charte vise aussi à soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La Russie, on l'aperçoit aujourd'hui comme une menace pour l'Europe et pour la stabilité du monde. Hier c'est la Tchétchénie, aujourd'hui c'est la Géorgie, l'Ukraine. Je pense qu'on ne peut pas prêter des intentions pacifistes à la Russie. Et il faut que l'Union européenne monte en puissance pour assurer sa propre sécurité, notamment en mettant en place une armée commune européenne forte.
Laurence Dufault, première secrétaire fédérale du PS en Ille-et-Vilaine pour la liste Place Publique.
Depuis le début du conflit, nous n'avons jamais changé de position. Nous avons évidemment dès le départ dénoncé l'invasion de la Russie, mais nous l'avions bien dénoncé avant via l'annexion de la Crimée, mais également l'annexion de 20% du territoire géorgien. Donc aujourd'hui, il faut aider l'Ukraine parce que c'est une solidarité pour un peuple qui est aujourd'hui en résistance, mais c'est aussi la façon de protéger nos démocraties européennes. Donc aider l'Ukraine, c'est bien évidemment faire des livraisons d'armes, de défense à l'Ukraine. Il ne s'agit pas que de parler comme le fait le président de la République, mais bien de faire en sorte que des livraisons d'armes arrivent effectivement à l'Ukraine. Et en ce sens, la France est en retard dans les livraisons d'armes. Et puis, il faut également frapper la Russie là où ça fait mal. Aujourd'hui, des avoirs d'oligarques russes sont gelés et ils doivent être débloqués au niveau de la France et nous devons pouvoir les utiliser justement pour pouvoir augmenter nos livraisons d'armes à l'Ukraine.
Amar Belal pour le Parti communiste, enseignant à l'IUT de Rennes, responsable à l'écologie pour le Parti communiste français.
Dès le début du conflit en Ukraine, on a apporté notre soutien. On a toujours été pour aider l'Ukraine, y compris à se défendre. Il est normal quand un pays est touché dans son intégrité territoriale qu'on puisse l'aider. Par contre, là où on est en désaccord avec la politique du gouvernement, c'est le récent accord de coopération avec l'Ukraine qui ne donne pas de limite dans la coopération militaire. On pense que c'est une fuite en avant dangereuse. L'urgence aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu et d'engager des négociations diplomatiques pour construire une paix durable dans toute l'Europe. Or, commencer par dire que la France veut s'engager sans limite dans le conflit et puis que l'Ukraine a vocation à rentrer dans l'Union européenne et même à terme dans l'OTAN, ce n'est pas une façon d'engager des premières discussions diplomatiques qui permettraient d'avoir le cessez-le-feu. Et donc nous, on pense que le vrai combat aujourd'hui, maintenant, c'est un combat où il faut aller vers de la diplomatie pour aller vers un cessez-le-feu et non pas aller vers une escalade guerrière qui mènerait, comme on l'a vu dans les périodes récentes de l'histoire, dans des grands drames humains, des générations qui ont été fauchées par la guerre.
Hermine Mosé, Renaissance, chef d'entreprise et présidente de Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique.
Sur l'aide à l'Ukraine, moi j'ai une position déjà assez personnelle. Je suis l'épouse d'un militaire, je suis membre de la base arrière et donc il me tient forcément à cœur plus, j'allais dire, que n'importe qui de renforcer notre autonomie stratégique sur la construction des équipements militaires, des munitions aussi, à un moment où évidemment l'industrie de la défense européenne est la garantie de notre souveraineté et de notre indépendance. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a 2 ans, au déclenchement de la guerre en Ukraine, j'ai douté de l'Europe. Et aujourd'hui, je suis très fière de voir à quel point la solidarité européenne a marché à plein, voilà, avec notamment le soutien à l'Ukraine. Et la position de Valérie Ayé est pour moi la meilleure à ce sujet.
Nolwenn Henry, pour Les Verts, psychiatre.
Pour nous, l'Union européenne doit s'engager sur les enjeux du monde, avec notamment un agenda politique sur la question de l'investissement des États membres de l'Union européenne et de ses citoyens dans leur sécurité collective et pour un engagement bien sans faille pour défendre le droit international, notamment l'Ukraine ou encore avec la situation Israël-Palestine. Donc l'Europe doit être capable d'assurer la défense de l'Ukraine, l'intégrité de son propre territoire et aussi son indépendance énergétique. Pour nous, c'est un enjeu de crédibilité face bien au reste des partenaires internationaux. Et pour atteindre cet objectif, l'Union européenne doit se munir d'institutions et bien d'outils adéquats en vue des enjeux actuels. Et ça passe aussi par continuer de soutenir l'Ukraine face à l'agression russe. Quand je parle de renforcer le soutien, ça passe par renforcer le soutien diplomatique, financier et militaire à l'Ukraine, et bien pour agir contre les atteintes à la démocratie, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais aussi poursuivre et renforcer les sanctions contre la Russie, notamment et bien par les importations de produits agricoles et lutter contre bien le contournement des sanctions existantes. Et enfin, apporter une aide européenne pour permettre une reconstruction écologique et une convergence vers les standards européens.
Malo Duhamel pour la France Insoumise, co-animateur JFI Rennes.
Bah écoutez, bon, la situation en Ukraine, c'est une situation qui est terrible, qui est particulièrement complexe, mais il y a un devoir de solidarité avec le peuple ukrainien qui est attaqué par l'agresseur russe. Nous avons toujours condamné cette invasion. Et nous pensons voilà, qu'il y a un soutien, notamment financier, qu'il faut essayer d'aller aider les Ukrainiens. Et de l'autre côté, il faut aussi essayer surtout de mettre en avant la paix. La paix, c'est notre mot d'ordre en Ukraine comme pour tous les conflits.
Julien Masson pour la liste RN, porte-parole du Rassemblement National à Rennes.
Bah, écoutez, sur l'aide à l'Ukraine, on a été très clair déjà depuis le début. On a évidemment condamné avec force l'invasion russe sur les terres souveraines ukrainiennes. Donc évidemment, il faut aider l'Ukraine. Le soutien, on a notre maire de Perpignan qui lui-même allait chercher des réfugiés ukrainiens pour les ramener à Perpignan. Nous sommes favorables à une aide logistique, évidemment, humanitaire, et une aide aussi sur l'armement défensif. La ligne rouge, si vous voulez, ce serait d'aller beaucoup plus loin, d'aller sur un armement qui pourrait attaquer la Russie et qui ferait de nous, Français, des co-belligérants. Et ça, c'est notre ligne rouge.
Ce qu'on a pu entendre, ou non, mais ce qu'on a en tout cas vu dans les entretiens, c'est que certains candidats sont plutôt, comme le Parti Pirate par exemple, sont plutôt pour une armée européenne, quand d'autres voilà, veulent absolument la paix, on l'entend plutôt à la fin pour ce qui est de la France insoumise.
De manière générale, je pense que tout le monde veut la paix. Hein. Même,
évidemment.
Même Orban, pour retourner sur lui, sur le cas de l'Ukraine, en rebondissant, a dit qu'il est contre la guerre en Ukraine parce qu'il est contre la guerre de manière générale. Donc, fondamentalement, on peut être d'accord avec lui sur certains points. La création d'une armée européenne, c'est aussi quelque chose, un sujet de discorde depuis le général de Gaulle, où la France avait posé son veto justement sur cette création, et c'est quelque chose qui était, on va dire, à l'arrêt pendant très longtemps. C'est revenu assez récemment, et notamment avec la question russe et ukrainienne, un peu sur le devant de la scène, avec la redynamisation aussi de l'OTAN, et avec les discours de Trump et la crainte de l'Union européenne que Trump soit réélu. Et Trump a dit aussi dans ses discours précédemment cette année qu'il n'aiderait pas les pays membres de l'OTAN, alors que c'est un des engagements de l'OTAN, si ces pays n'étaient pas à jour de leurs cotisations. Donc il faut, pour certains membres de l'Union européenne, certains partis politiques, vraiment constituer une armée européenne, mutualiser les coûts pour prévenir le cas de un retour de Trump au pouvoir aux États-Unis, mais après aussi de manière plus large, avoir une politique commune. Mais ça se heurte à d'autres niveaux avec l'absence parfois de politique commune et la question palestinienne qui crée une divergence, la question ukrainienne qui pose une divergence, ou même depuis beaucoup plus longtemps, la reconnaissance du Kosovo par les pays membres de l'Union européenne, l'Espagne ne reconnaissant pas le Kosovo. Parce qu'ils ont peur que ça crée un précédent pour la reconnaissance de la Catalogne.
Augmentons un peu l'échelle et venons-en aux élections en France. On a entendu tout à l'heure dans la chronique d'Angelina, c'est un contexte des élections européennes tout à fait inédit, puisque 38 listes, c'est quand même un record. C'est plus qu'en 2019 où il y en avait 34. Comment on explique ce phénomène d'augmentation et de profusion des listes si on compare par exemple avec les élections présidentielles où il n'y avait que 12 candidats?
Alors, il y a une dimension technique déjà dans un premier temps. Il n'y a pas de contrainte pour monter une liste. Sur les élections européennes, présidentielles en France, il faut avoir des parrainages, ce qui peut être parfois remis en question pour la représentativité. On avait vu avec Éric Zemmour ou avec Marine Le Pen qui des fois se plaignaient d'avoir des difficultés à avoir ces 500 parrainages. Pour les élections européennes, la seule contrainte, c'est d'avoir le nombre de candidats d'inscrits sur la liste qui représente le nombre d'eurodéputés français. Donc la France aura 81 eurodéputés, donc il faut 81 personnes sur la liste. La France, à la différence d'autres pays, a aussi souhaité avoir une parité. Il n'y a que 7 pays au sein de l'Union européenne qui veulent une parité au niveau de leur... Il n'y a pas d'obligation au sein de l'Union européenne d'avoir une parité pour une égalité femmes-hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est... En France, depuis 1995, on essaie d'avoir une parité. Et ça, c'est quelque chose de plutôt positif et qui est bien.
Mais on peut en venir également aussi sur cette question aussi d'une élection qui tourne autour de deux partis, on va dire La République En Marche et le Rassemblement National. Quand même, on a l'impression de voir un second round de ce qu'on a vécu pendant les présidentielles. Et quelque chose de très symbolique, ça a été ce débat notamment entre Gabriel Attal, qui n'est même pas tête de liste, et Jordan Bardella il y a de ça quelques jours.
Ouais. Alors, à titre personnel, je trouve que c'est assez problématique que Gabriel Attal soit allé parler, parce qu'il devrait avoir une certaine posture en tant que Premier ministre et ne pas s'engager dans le débat, à une certaine neutralité, même si, bien évidemment, il fait partie d'un parti politique et du fait est amené à répondre à des questions, mais pas forcément à en débattre. Et ça, c'est quelque chose qui a posé un peu un souci. Après, avec ce nombre de listes, on ne peut pas donner la parole à tout le monde, malheureusement, mais il y a quand même une certaine régulation. On essaie de parler à peu près de tous. Mais certains de ces partis, finalement, sont là pour représenter une idée. Pour être remboursé de ses frais de participation, il faut avoir 3% de personnes à avoir voté, des électeurs à avoir voté pour eux. Pour avoir l'espoir d'avoir un eurodéputé, il faut au minimum 5%. Donc finalement, si on faisait statistiquement un calcul, seulement 16 partis pourraient avoir un député, atteindre les 5%. Ce qui veut dire qu'il y en a la majorité qui n'auront pas ces 5%. Et on peut aussi transposer la majorité qui n'auront pas ces 3% pour revenir dans leurs investissements. Ce qui fait que certains partis politiques qui sont présents et qui ont déposé des listes n'ont pas publié de programme. Ils sont des fois disponibles seulement sur Internet. Ça sera à vous d'imprimer finalement votre bulletin de vote parce qu'ils ne seront pas présents dans les bureaux de vote. Et c'est vraiment pour passer un message. Il y a une question qui nous porte à cœur, donc on va se retrouver à 81 pour nous permettre de la poser sur la place publique.
On précise au niveau de l'Europe, hein, 720 députés qui vont être élus cette année. On l'entendait tout à l'heure aussi, donc certains jeunes n'ont pas connaissance de l'élection, ou en tout cas de cette date. Et si on regarde certains sondages, on est environ à 3 jeunes sur 10 qui seraient amenés à voter le 9 juin prochain. Est-ce que cette profusion de listes, en plus, elle joue en la défaveur aussi de ces élections européennes ?
Cette profusion, je pense, joue un peu en défaveur. Et en plus, c'est une élection très paradoxale, puisque c'est une élection nationale, puisqu'il y a une seule liste pour la France par parti politique, alors qu'il y a encore 10 ans, il y avait des listes par région. Donc ça donnait un peu plus une visibilité. Mais c'est une liste nationale où, finalement, seulement les Français ou les personnes autorisées à voter en France, puisque un ressortissant italien habitant légalement en France peut voter en tant qu'Européen aux élections européennes en France, ou alors décider de le faire depuis l'Italie, par exemple. Et donc on va voter pour 81 eurodéputés qui seront après dans 7 groupes, ou 8 avec les non-affiliés, au Parlement européen. Donc chaque pays va avoir une représentativité différente. Le Luxembourg n'aura que 6 eurodéputés, par exemple. Et ça met une complexité avec ces élections, c'est que finalement, même si on vote, on ne sera jamais majoritaire. La France ne pourra pas. On est obligé de faire des accords avec d'autres partis. Déjà que c'est compliqué en France de comprendre quand il y a 5 partis. Donc 34, c'est encore pire. Mais au sein de l'Union européenne, c'est qu'on ne connaît pas les groupes au sein de l'Union européenne. Là, ce qui a été dit précédemment en introduction de l'émission, c'était on a listé les groupes et auxquels les partis politiques français se rattachaient. Et finalement, on peut se poser la question, mais s'ils se rattachent dans seulement 7 groupes, pourquoi on en a autant de différents ? Et ça peut, je pense, délégitimiser un petit peu ces élections et se poser une question sur le sens d'avoir autant de candidats.
Avant d'en venir à un sujet très précis en France, on va aussi en venir à la montée de l'extrême droite quand même dans les sondages. Une progression depuis 2019, puisqu'en 2019, si on se base en tout cas au sondage, à cette période de l'année, on était environ à 22,5% pour un score finalement à 23%. Si on prend le sondage le plus récent de l'IFOP qui date du 28 mai 2024, celui-ci donne le parti d'extrême droite à 34%, c'est donc plus de 10% par rapport à 2019. Comment s'explique la montée de l'extrême droite depuis ces dernières années et en vue de ces européennes ?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait une réponse vraiment parfaite, mais il y a depuis quelques années finalement une crise économique au sein de l'Union européenne et il y a une remise en question. Et cette remise en question, ça va aussi une remise en question des partis établis. Donc, c'est ce qui a conduit à l'élection d'Emmanuel Macron en France. C'est on ne voulait plus de l'alternative UMP, Parti Socialiste. Donc, une troisième voie s'est ouverte en étant une voie, on va dire, démocratiquement éthique, on va dire, avec Emmanuel Macron, qui ne dépareillait pas tant que ça, mais qui était affiché comme différent. Il y a eu, finalement, pour beaucoup de personnes, un sentiment d'échec avec son élection, avec une économie, avec une société qui n'a pas forcément évolué, avec des clivages de disparités qui se sont accentués. Et ça a créé une frustration qui légitimise de plus en plus les questions, on va dire, sur les extrêmes. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver à un niveau plus large, au sens de l'Union européenne, avec la montée du nationalisme en Italie, comme on a mentionné, en Hongrie, avec des débats qui vont être très poussés, avec, en Pologne, avec un retour finalement d'un sentiment un peu plus pro-européen dernièrement. Mais si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, avec Trump ou même les autres candidats aux élections américaines qui ont vraiment des positions très nationalistes, America first, et au sein de l'Union européenne, ça va être la France d'abord. Ce qui rend très compliqué d'ailleurs pour les élections européennes, c'est comment on peut faire la France d'abord pour des élections qui ne sont pas nationales, mais des élections européennes, et se retrouver ensemble au Parlement.
Ben, je vous propose qu'on écoute tout de suite le sujet que nous avons réalisé donc, sur la PAC avec 7 candidats qui ont répondu à cette question. Comment faire évoluer la PAC comment faire évoluer la PAC à l'Europe au moment des élections, au moment où les personnes seraient élues députées. Hermine Mosé pour le groupe Renaissance, chef d'entreprise et présidente de Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique.
La PAC aujourd'hui est un très bon système. Il défend nos agriculteurs. Je tiens d'ailleurs à rappeler que la France est la première bénéficiaire de la PAC. Valérie Ayé au Parlement européen l'a redit à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, le meilleur des systèmes, c'est un système sans lequel les agriculteurs auraient beaucoup de difficultés. Je sais qu'il est taxé parfois d'être un peu bureaucratique, un peu contraignant à cause des mesures écologiques qu'il protège. Mais comme l'écologie et comme la nature n'a personne pour la représenter au Parlement européen, il est nécessaire aussi d'avoir quelques contraintes environnementales pour protéger la nature. Et étant donné les aides importantes de la PAC, évidemment, il y a un contrôle administratif qui fait qu'il y a une certaine bureaucratie.
Nolwenn Henry, pour Les Verts, psychiatre.
On sait que l'agriculture est la première concernée, aussi avec la pêche, par les conséquences du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. On voit qu'il y a une baisse de rendement qui pêche jusqu'à 30% selon les estimations du Haut Conseil pour le Climat. Il faut donc absolument revoir notre manière de produire. Et nous avons une politique agricole commune qui a été majeure dans la destruction des systèmes alimentaires locaux. Et pour cela, nous proposons de changer du tout au tout notre modèle agricole et de mettre en place donc une nouvelle PAC. Il faut se rendre compte de quelque chose que cette PAC, elle est dans une illogique. C'est-à-dire qu'on empêche les agriculteurs de vivre dignement de leur travail. De l'autre côté, on a la grande distribution et l'industrie qui se font des marges qui sont de plus en plus importantes.
Teddy, du Parti Pirate, cadre territorial et ancien étudiant de Rennes 2.
Au niveau de la PAC, on pense qu'il faut continuer la convergence des normes entre les pays européens, également au niveau des accords commerciaux internationaux qui concernent bien souvent les produits agricoles. Il faut qu'ils soient contrôlés par le Parlement européen et pas que par la Commission européenne. Et les citoyens devraient avoir un accès intégral à ces informations qui restent malheureusement trop souvent opaques. Et pour rentrer plus en détail dans le mécanisme de la PAC, nous sommes contre les projets de fermes industrielles et globalement contre la trop grande importance donnée à la taille des exploitations ainsi qu'à la quantité de matières produites. Il faut s'appuyer plus sur des critères de durabilité.
Amar Bellal pour le Parti communiste, enseignant à l'IUT de Rennes, responsable à l'écologie pour le Parti communiste français.
La PAC, elle a favorisé le productivisme et la course à des exploitations de plus en plus grandes, au gigantisme, ce qui a défavorisé les petites exploitations et qui a rendu dépendants les agriculteurs face à la mécanisation et à toujours plus d'engrais, toujours plus d'agriculture productiviste. La PAC doit financer prioritairement les premiers hectares et donc favoriser l'installation de petites exploitations. La PAC doit aussi prendre la mesure de l'enjeu du renouvellement des générations, donc des aides substantielles pour faire en sorte que les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer puissent s'installer dans de bonnes conditions.
Laurence Dufault, première secrétaire fédérale du PS en Ille-et-Vilaine pour la liste Place Publique.
Notre liste est favorable à une grande refonte de la PAC pour faire face aux défis climatiques auxquels les agriculteurs sont les premiers concernés. Le réchauffement climatique aujourd'hui implique des rendements qui chutent d'année en année. L'épuisement des sols est aussi une problématique importante pour les agriculteurs. Et si nous voulons une agriculture durable, il faut réformer cette PAC.
Julien Masson, pour la liste RN, porte-parole du Rassemblement national à Rennes.
Il faut tout d'abord dire que cette PAC, elle est indispensable, elle est nécessaire évidemment pour nos agriculteurs. Et que, alors forcément, nous la votons parce qu'elle est aujourd'hui indispensable. On doit aujourd'hui maintenant penser à peut-être à une PAC plus juste, une PAC qui amène aussi d'assurer une plus grande visibilité aux agriculteurs sur leurs revenus sur 2-3 ans peut-être. Elle est indispensable. L'idée, c'est quand même aussi de dire que l'importance, c'est vraiment les prix rémunérateurs et pas les primes. L'importance, c'est justement à assurer des prix rémunérateurs à nos agriculteurs. Et donc, ils sont face aujourd'hui à une inflation de normes. C'est vraiment problématique. Aujourd'hui, ils passent plus de temps sur leur ordinateur que sur leur tracteur. Et c'est bien problématique.
Malo Duhamel pour la France Insoumise, co-animateur des Jeunesses de la France Insoumise à Rennes.
Le problème de la PAC aujourd'hui, c'est que c'est le premier budget de l'Union européenne. Ça va être 40% de son budget total. Et malheureusement, c'est de l'argent qui revient toujours vers les plus gros producteurs, vers les plus gros agriculteurs, vers l'agro-business. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. En France, on a aussi des petits producteurs locaux, des petits producteurs bio, et c'est aussi vers eux qu'il va falloir repositionner le budget et tout cet argent, qui est quand même considérable. Et on l'a vu là, ces derniers temps, avec les mouvements sociaux qui ont touché le monde rural et le monde agricole un peu partout en Europe. Voilà, il y a une nécessité de changer de cap.
Je crois que de ce qu'on vient d'entendre, il y a un consensus, c'est que cette PAC a besoin d'une refonte, mais ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons.
Oui. Donc, ce qui est intéressant, ce qui a été dit par certains des candidats, c'est que la PAC, c'est le plus gros budget de l'Union européenne. En 2022, c'est 58 milliards d'euros. Et la France en reçoit sur ces 58 milliards 9,5 milliards. Donc c'est un tiers du budget de l'Europe, c'est très conséquent. Et pour la France, c'est 56% de son aide qu'elle reçoit de la part de l'Union européenne. Donc en recentrant le débat sur une question française, c'est extrêmement important pour la France, la PAC, la politique agricole commune, parce que c'est ce qui rapporte finalement le plus d'argent à la France. Et ça, c'est quelque chose qui fait que c'est un débat qui est principalement en France. Sur un pays comme, je reste sur le Luxembourg, il y a peu de bénéfices de la PAC. Donc ce n'est pas une question qui est vraiment sur le débat et c'est pour ça qu'on retrouve ce consensus sur l'importance de la PAC parmi toutes les listes. Après, avec certaines fois, bien évidemment, des volontés de la modifier. Et ça peut ramener sur un autre débat, c'est que l'Union européenne est un peu compliquée. Et d'obtenir des financements de l'Union européenne, c'est ouvert à tout le monde, mais finalement, de déposer une demande de financement, c'est compliqué, ça demande des personnels formés avec une façon d'écrire des dossiers qui peuvent être assez longues, des fois des financements à avancer pendant un an, deux ans avant de recevoir l'argent qu'on a obtenu et sans garantie non plus des fois d'obtenir. Donc sur certains projets européens, il y a 25% de réussite. Donc on va s'investir pendant 6 mois pour monter un dossier à plusieurs millions d'euros et finalement, on ne va pas obtenir le financement. Donc ça demande pour ça des grandes structures de la puissance en ressources humaines et en techniques pour déposer des dossiers, ce qui parfois rend compliqué pour les petits producteurs d'avoir accès à ça. Mais ça reste un débat très français, la politique agricole commune.
Est-ce que si ce sujet est si important dans la campagne, est-ce que ça va avoir des conséquences justement sur le moment après l'élection? Est-ce qu'on peut penser que ça va être un des sujets qui va arriver sur la table très vite? Alors, on a parlé des 40% de budget de l'Union européenne. Évidemment que ça a un sens aussi.
Alors, c'est pour ça que les élections européennes sont assez compliquées, c'est que c'est des élections non pas nationales. Donc ça va être un débat qui est très fort pour la France, mais après, en fonction de la présidence tournante, en fonction de la Commission européenne, c'est quelque chose qui va être plus ou moins rapide. Et puis après, il y a des urgences, la crise en Ukraine, des questions, on va dire, des fois sociétales qui peuvent ralentir. Mais il y a aussi, au sein de l'Union européenne, il y a la présence de lobbies qui vont vraiment travailler derrière aussi pour amener des questions sur les OGM, sur certains phosphates, l'utilisation, donc de les reconnaître, de ne pas les reconnaître, les autoriser. Et ça, c'est des choses qu'on peut reprocher à l'Union européenne. Et je fais une légère discrétion, mais est-ce qu'il peut aussi poser des problèmes à l'Union européenne ? C'est cette question des lobbies. Là, il n'y a pas si longtemps, donc c'était en 2022, il y a eu la commissaire européenne Eva Kaili, avec le problème du Qatargate, avec retrouver chez elle 1,5 million d'euros, et ce qui pose aussi des questions sur la défiance et la légitimité de l'Union européenne. Et ça peut aussi impacter peut-être sur les abstentions. Mais pour la PAC, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'économie française. Donc c'est pour ça que c'est vraiment abordé de manière aussi forte.
On s'achemine vers la fin de cet entretien. On va écouter l'extrait, cette fois-ci, sur le sujet du pacte sur l'asile et la migration, avec chaque témoignage, qui a été un des sujets importants des derniers mois, des dernières semaines. Amar Belal, pour le Parti communiste, enseignant à l'IUT de Rennes, responsable à l'écologie pour le Parti communiste français.
Nous, on est pour une politique de l'accueil. Quand les gens sont décidés à venir sur un territoire, ils y arrivent. La question, c'est est-ce qu'ils y arrivent avec des drames humains tels qu'on connaît en Méditerranée, où il y a, je crois, en 2023, il y a eu presque 500 000 morts dans la Méditerranée, noyés. Et donc, nous, on dit qu'il faut organiser des chemins de migration pour que ça se fasse dans des conditions dignes. Et on dit que l'Europe doit se répartir l'effort d'accueil.
Nolwenn Henry, pour Les Verts, psychiatre.
Sachant que notre volonté est un accueil digne des personnes en migration, sachant que, eh bien, on a une Europe qui se ferme et qui construit une véritable forteresse à ses frontières, ce qui n'empêche d'ailleurs absolument personne de migrer, mais ça va justement uniquement accroître les périls auxquels les personnes font face. Pour nous, le principe de l'hospitalité, aussi du respect des droits humains et le droit à ne pas risquer sa vie doivent en fait revenir au centre des politiques migratoires européennes. Le paquet Asile et Migration marque très clairement le renforcement de cette Europe forteresse. Les textes ne s'occupent que de gérer en fait que des flux, sans un regard ou une attention pour les personnes.
Teddy, du Parti Pirate, cadre territorial et ancien étudiant de Rennes 2.
Dans le pacte Asile et Migration, il y a des choses intéressantes et d'autres qui le sont bien moins. Il faut lier cette question à celle de la démographie. Pour nous, la liberté des individus à avoir ou non des enfants, c'est primordial. Ça doit être respecté. Cette notion, c'est pas négociable. Vu la tendance sociétale actuelle à avoir globalement moins d'enfants, ça nous amène à nous questionner sur le niveau d'immigration souhaité ou attendu, pour ne pas trop déstabiliser nos sociétés. Et d'un autre côté, il y a le changement climatique, avec ce qui l'accompagne. Famine et guerre qui va pousser beaucoup d'humains sur les chemins de la migration. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout d'abord, c'est accueillir dignement les migrants qui arrivent sur notre territoire, également changer d'échelle dans la lutte contre le changement climatique. Et il faut une armée européenne unique et forte, capable de se projeter pour garantir la paix et la stabilité dans les zones qui pourraient être la source de migrations futures.
Hermine Mosé, pour le groupe Renaissance, chef d'entreprise et présidente de Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique.
Le sens de ce pacte asile-immigration, pour moi, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus de contournement du droit d'asile ni de flux d'immigration massif. C'est quand même, j'allais dire, une fois encore, un mécanisme de solidarité qui permet de contrer des flux migratoires massifs. Et nous, on est du côté du droit. C'est pour moi une solution qui est inédite, c'est une solution efficace pour répondre à un défi migratoire qui est en plus de plus en plus important et auquel nous devons faire face. Et donc, encore une fois, les mécanismes de solidarité de ce pacte d'immigration me paraissent, si ce n'est nécessaire.
Laurence Dufault, première secrétaire fédérale du PS en Ille-et-Vilaine, pour la liste Place Publique.
Ce pacte ne règle rien. Il voit l'immigration comme un problème, qu'à travers des remparts via la loi pour empêcher l'immigration. Nous nous réaffirmons que nous avons besoin d'immigration, qu'il n'y a pas de grand remplacement au sein de l'Europe. Aujourd'hui, la population étrangère en Europe représente à peu près 5% de la population européenne. Il n'y a aucun grand remplacement en Europe. Nous avons besoin, pour des raisons de travail, mais également pour des raisons de vieillissement de notre population, d'arrivée de migrants. Et pour cela, il faut pouvoir les accueillir dignement. On doit mettre les moyens financiers sur l'accueil des migrants, mais également
sur une harmonisation de nos conditions au niveau des pays européens pour leur permettre de travailler, parce que nous savons que le travail est le moyen principal pour permettre l'insertion dans nos pays des migrants, et c'est pas en bloquant l'accès au travail qu'on peut permettre cette insertion. Et puis, effectivement, il y a une immigration illégale. Elle représente à peu près 3% aujourd'hui des migrations qui existent vers l'Europe. Donc, c'est infinidésimal, mais elle existe. Et face à l'immigration illégale, nous devons effectivement permettre la reconduction des migrants vers leur pays d'origine, quand ils ne sont pas effectivement en capacité de bénéficier de conditions vis-à-vis de l'asile ou du droit au travail.
Julien Masson, pour la liste RN, porte-parole du Rassemblement national à Rennes.
Nous, nous sommes opposés parce que finalement, ce pacte d'asile immigration, il organise finalement l'immigration. Il faut savoir que pour l'Union européenne, pour la Commission européenne, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Et là, nous sommes face à un pacte qui finalement... promeut l'immigration dans le sens où elle peut condamner des États qui refuseraient la répartition des migrants avec des amendes de jusqu'à 20 000 euros par migrant refusé. Nous, nous disons que les Français doivent décider pour eux-mêmes. Les divers sondages sur le sujet montrent que les Français, dans une large majorité, 70-80% parfois, veulent stopper l'immigration. Donc il faut absolument les écouter. Cette immigration, elle pèse un coût sur nos comptes sociaux. Cela pose aussi un problème sécuritaire. Et donc nous, nous avons une position totalement opposée à cela. Nous sommes pour que la France puisse refuser l'immigration sur son territoire.
Malo Duhamel pour la France Insoumise, co-animateur des Jeunesses de la France Insoumise à Rennes.
Pour nous, ce pacte, c'est vraiment la consécration de l'urbanisation de l'Union européenne. Hein. On a vraiment la droite européenne qui a pesé tout son poids dans ce pacte asile-immigration. Et on pense vraiment, nous, qu'il faut aller, au contraire, vers l'abolition de Frontex. Il va falloir arrêter de renvoyer les migrants vers des pays comme la Libye et la Turquie. Il faut gérer directement en France et dans les autres pays de l'Union européenne les demandes d'asile et d'immigration et les traiter ici dans des conditions humaines.
Ce qui est intéressant, c'est que le parti Renaissance adapte son discours au contexte, essaie de grappiller des voix et va peut-être vers une extrémisation de son discours un petit peu.
Au cours des dernières années, on a quand même vu une acceptation finalement du Rassemblement national dans le débat, ce qui a poussé aussi un peu l'échiquier sur la droite, ce qui fait que des sujets qui étaient tabous précédemment le sont de moins en moins. Donc on peut parler d'immigration alors qu'il y a encore 10 ans, c'était quelque chose qui était beaucoup plus compliqué à faire. Et ça, on le ressent. Après, ce qui a été dit aussi, dans le cas... présent, c'est que l'immigration pourrait être un peu choisie, un peu à la carte, c'est-à-dire les Ukrainiens, ils sont européens d'une certaine manière, donc beaucoup plus acceptables, désolé d'utiliser des mots comme ça, alors que sur la crise migratoire avec les Syriens précédemment, ça a été très compliqué, il y a eu un accord fait avec la Turquie justement pour que des camps de réfugiés soient mis en place, et ça c'était un accord de l'Union européenne avec la mise en place aussi d'une agence de l'Union européenne sur le contrôle des frontières, donc l'agence Frontex, avec des financements de l'Union européenne vraiment sur les questions migratoires. Mais si on le ramène sur le contexte israélo-palestinien, il n'y a pas non plus de question d'accueil de migrants ou de réfugiés palestiniens. Et actuellement, ça pourrait être aussi quelque chose de crucial, je pense. Et ça, il n'y a pas de politique commune. Et la question migratoire, c'est aussi... Un point de divergence, même dans les pays, dans les partis, on va dire, identitaires. Donc, pour Identité et démocratie, qui est le groupe politique au sein de l'Union européenne, qui regroupe le Rassemblement national, mais aussi la Ligue...
Fratelli d'Italia,
voilà,
aussi.
Il y a une divergence. Ils se retrouvent sur des questions d'euroscepticisme, de politique migratoire, mais la façon de la traiter est vraiment très différente. En Italie, la question serait d'avoir une réponse un peu commune et aussi, par exemple, de répartir les migrants au sein de l'Union européenne, alors que la France, qui est moins impactée que l'Italie, ne souhaite pas de politique commune. Et donc ça, c'est un point de tension entre les pays des mêmes groupes, les partis des mêmes groupes politiques au sein de l'échiquier européen, ce qui fragilise aussi au sein de l'Union européenne ce débat.
Et est-ce que ces élections, au vu des sondages aussi européens de l'extrême droite, c'est un tournant pour l'Europe autour de ce sujet-là ?
Je pense que c'est un point vraiment névralgique et vraiment important. Mais quand on prend le groupe Identité et Démocratie, qui va sûrement, aux prochaines élections, avoir beaucoup plus d'eurodéputés, il n'y a pas de consensus, parce que finalement, c'est des groupes qui sont, on va dire, nationalistes, mais il n'y a pas vraiment de nation européenne. Après, Orban va parfois dire qu'il faut une préférence nationale. America first, la France d'abord. Il n'y a plus de questions sur le Frexit, mais on se retrouve avec beaucoup d'identitaires et nationalistes, mais qui ne travaillent pas finalement conjointement. Ils ont des prérogatives nationales, ce qui peut amener sur le paquet asile à des divergences qui vont ralentir sûrement les discussions, parce que si on accueille des migrants, bah, finalement, il n'y a pas beaucoup de pays qui veulent vraiment les accueillir, même si sur le principe, ils ne sont pas forcément contre.
Merci en tout cas, Benoît Ajosset, d'avoir répondu à toutes nos questions.
L'inattendu sur Syllab, 17-18h. Écoutons à présent Mister Nobody de l'artiste Lo Sapardo pour une nouvelle pause musicale. Don't give me too many options. I'm not among these people good at making choices. Too many options, already got enough to regret. Remorses, regrets, remorses. If I could just split into or three or four. If I could trust myself just a little more. Sometimes.
C'était Mister Nobody de l'artiste Lossa Bardo.
Vous êtes toujours dans l'île attendue sur Syllab.
Place à présent à la revue de presse d'Angelina, qui va nous parler des articles qui ont attiré son attention ces derniers jours.
Oui, dans la presse, quelques articles ont attiré mon attention. Pour commencer, Le Monde revient sur la condamnation historique de Donald Trump. Alors que les élections américaines commencent le 5 novembre, l'éditorialiste du Monde explique que, je cite, « 12 jurés new-yorkais ont déclaré à l'unanimité Donald Trump coupable de 34 délits de falsification comptable dont il est accusé ». Et il s'agissait de dissimuler aux électeurs, lors de l'élection de 2016, l'achat du silence d'une actrice de film pornographique d'une ancienne relation extra-conjugale. C'est la première fois qu'un président des États-Unis est condamné au pénal. Mais ce n'est pas son seul procès en cours. Le Monde déplore aussi le fait que d'autres jugements concernant Donald Trump sont à venir et que sa peine ne sera connue qu'à partir du 11 juillet. Hier, dans Libération, l'actrice et la réalisatrice Isilde Lebesco a fait la une. Elle vient de porter plainte pour viol contre le réalisateur Benoît Jacquot. À l'époque, elle avait 16 ans et lui 52. Elle raconte avoir longuement hésité à parler, mais s'être décidée afin que, je cite, « ce système de domination sans cesse reconduit sans rail ». Avec toujours cette peur d'être oppressée par le rôle de victime. Elle décrit sa dépendance face à son agresseur présumé entre violence psychologique et sexuelle. Sa plainte s'ajoute à celle déposée par Judith Godrèche qui avait saisi la justice début février. Ouest France, premier quotidien de France, nous explique qu'un policier d'Île-de-France est condamné à de la prison avec sursis pour violence et insultes racistes dans un train en Bretagne. Cela remonte au juillet 2022, où une intercation avait lieu dans un TER direction Saint-Malo, entre policiers et des jeunes, certains mineurs. France Info nous ouvre les portes de l'Opéra de Paris et nous raconte la mise en place d'une nouvelle formation de 2 ans destinée à une vingtaine de jeunes danseurs de 17 à 23 ans afin de les accompagner dans le monde professionnel. Le souhait de l'institution, diversifier les profils de danseurs qui se produisent sur scène de l'Opéra National de Paris en lien avec les engagements de l'établissement en matière de diversité et d'inclusion.
Merci Angelina pour cette revue de presse.
Vous êtes toujours dans
l'inattendu.
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 C'est la fin de cette toute dernière L'inattendue. Merci Victoria pour la co-animation et Elena pour la technique. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés durant cette saison.
Voilà, une dernière qui aura été le climax de l'inattendu. Merci Angelina, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette dernière. Ils sont derrière la vitre. Elliot, Emma, je vois, Timothée forcément à la technique. Héloïse aussi, merci beaucoup de nous avoir accompagnés lors de ces derniers jours. Si Angelina ne tient plus, comme quand elle veut exploser de rire en fin d'émission.
Mais non. Bah oui, voilà. Merci Milad. Et à tout le monde, je fais un peu mes mots. Ah, pop, hop. Et à Héloïse et à tous les bénévoles, sans qui cette aventure ne sera pas la même chose.
Alice, évidemment,
et Alice,
pense à Alice,
bien sûr,
aussi.
Qu'on salue, voilà. Qui n'est pas dans les studios, mais qui est dans nos cœurs.
C'est rigolo, 18h15, dernière émission. Voilà, c'est vraiment, c'était inattendu cette année, assez inattendu. L'émission porte bien son nom, voilà. On remercie encore les salariés qui nous ont suivis toute cette année, qui nous ont bien aidés. Merci aux bénévoles aussi.
Bien
voilà.
Sûr, Elliot, dernier jour aujourd'hui parmi nous. Milad, Sciences Po, voilà, master journalisme à Paris, ça y est, quitte la Bretagne, il ose, mais bon, ça fait partie du jeu.
On va pas citer tous les prénoms, mais voilà, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Victoria, tu es là, t'as de la chance, c'est donc toi qui seras remercié principalement. Voilà.
C'est sur ça qu'on se quitte,
soirée,
c'est bizarre,
voilà.
Hein.
Mais c'est vrai, ça fait bizarre, mais
ça fait partie de la vie.
Ça fait partie aussi des échéances temporelles. Et là, elles sont pas très respectées.
mais bon, voilà. Restez sur Syllab.
Oui, voilà, restez sur Syllab. Il y a quoi? Il y a Aman ce soir.
Oui, à 19h. Bonne soirée à toutes
et à tous. Bonne soirée sur Syllab.